contacter le virus. Mais au-delà de ça, en faisant une analyse personnelle, j'ai vu quand même qu'il y a eu des signes qui sont apparus, que j'avais pris comme du paludisme et que j'ai traité comme du paludisme pendant ma présence au Burkina. C'est-à-dire, après 5 jours de séjour, j'ai eu une forte fièvre. J'ai confondu ça avec du paludisme. J'ai fait une malaria thérapie avec la combinaison thérapeutique à la thymisinine et avec un antipyrétique, quelque chose contre la fièvre, et je m'étais senti mieux. Donc, cela montre en réalité que ce signe qui était assimilable au paludisme n'était que de faux signes et que le véritable motif de la fièvre était surtout Covid. Et c'est ça que le PCR a confirmé. Donc voilà.
C'est la même chose que vous aviez expliqué dans notre première émission, que lorsque les personnes ressentent les signes qui peuvent ressembler au paludisme, il est important d'aller à l'hôpital pour qu'on connaisse la vraie maladie qui se cache derrière les symptômes.
Exactement.
Ok. Oui. Alphonse Mbouaki, notre auditeur de la RDC, vous demande de lui expliquer que le premier jour qu'on vous a annoncé que vous étiez positif, comment avez-vous reçu cette nouvelle?
En fait, j'étais dubitatif. Je n'ai pas voulu y croire. J'ai dit, mais écoutez, malgré toutes mes précautions, mon masque mais à l'analyse, j'ai tout de suite compris qu'en réalité, ils avaient raison. Ok, ils avaient raison. Parce que dans le développement plus tard, il y a la perte de l'odorat, qui est un signe quand même majeur aussi de Covid. Techniquement, nous appelons ça l'anosmie. Donc, je ne sentais plus les odeurs. Et beaucoup plus tard, au 8e jour, il y a eu otorrhée, donc écoulement au niveau des oreilles. Donc, tout ça, c'est des signes qui font la différence vraiment avec le paludisme et qu'on peut mettre sur le compte du Covid. Maintenant, au-delà de l'annonce, j'étais quand même serein parce que, après le traitement que j'ai pris, je m'étais senti mieux. Il n'y avait plus d'autres symptômes en dehors des deux autres qui sont apparus plus tard. J'étais confiant parce qu'il fallait me référencer vers un site de prise en charge qui est bien organisé, okay, où le protocole thérapeutique du pays devait être appliqué. Et je n'avais aucun autre symptôme, donc je me sentais confiant. Il n'y a pas de panique et il fallait même d'ailleurs l'éviter. Et voilà un peu ce que j'avais senti. Et le calme et la confiance que là où on est en train de m'envoyer, j'aurai le meilleur traitement et la meilleure prise en charge qu'il faut. Merci.
Et c'était quoi votre traitement? Vous l'avez suivi pendant combien de temps?
Oui, en fait, comme nous sommes au Burkina Faso, chaque pays a son protocole thérapeutique. Et pour la plupart des pays de la sous-région africaine et même en Afrique, c'est un traitement basé sur l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Et le traitement a duré pour l'azithromycine 5 jours et pour l'hydroxychloroquine 10 jours. Et au terme de 10 jours de traitement, il n'y avait plus d'autres traitements qui soient donnés. Mais l'isolement a duré 36 jours. Donc au-delà du traitement qui est thérapeutique et qui a duré selon le protocole 10 jours au total, l'isolement a duré 36 jours parce que pour confirmer la guérison, il faut un test, le PCR encore, et c'est au niveau du PCR qu'il y a eu beaucoup de résultats positifs, négatifs et qui n'ont pas conforté l'équipe de prise en charge. Parce que selon les critères, il faut que la personne ait deux tests négatifs au PCR. Donc, deux PCR testés négatifs successivement. Si les deux PCR ne sont pas testés négatifs successivement, alors la personne n'est pas déclarée guérie. Et c'est un peu ce qui a prolongé mon séjour dans l'isolement jusqu'à 36 jours.
Mais votre guérison montre qu'on peut se remettre de la pandémie de coronavirus si on est infecté. Parce que beaucoup de gens se demandent s'il y a un traitement contre cette maladie.
Oui, le COVID-19 n'est pas une fatalité, sauf pour nos personnes vulnérables, dont, comme j'avais dit, les personnes âgées qui ont un problème d'immunité majeur et puis d'adaptabilité. Sinon, ce n'est pas une fatalité. Si on est observant, il n'y a pas encore de traitement qui soit internationalement approuvé par tous, mais le minimum de soins offerts d'un pays comme dans l'autre permettent aux gens de s'en sortir. et c'est vraiment notre optimisme. Hein. Le reste, c'est surtout d'être observant, parce que comme le virus peut attaquer tout le système, et si il y avait quelques défaillances chez une personne, la personne peut mourir de Covid. Donc voilà ce que moi je peux dire. Il s'agit d'être observant et pour le moment, en dehors des cas graves qu'on retrouve sur les personnes âgées et ceux qui ont des comorbidités, je pense que c'est une maladie qu'on peut garder sans préoccupation majeure. Il ne faut pas la banaliser parce que vous pouvez la transmettre à des personnes vulnérables qui sont à côté de vous.
Est-ce qu'au Burkina Faso ou bien dans la sous-région, le traitement anti-Covid est à la portée de beaucoup de personnes ou de tout le monde?
Ah, bien sûr. Déjà, l'azithromycine, c'est un médicament qui existait beaucoup en Afrique, qui était utilisé dans le cadre des infections respiratoires aiguës. Et puis la chloroquine, qui était utilisée déjà contre le paludisme pendant longtemps, des millénaires en Afrique, qui a été abandonnée et reprise. Et c'est vraiment, la prise en charge est gratuite. Et c'est ça l'avantage en Afrique. La prise en charge est gratuite et l'accessibilité même des médicaments dans les pharmacies sur prescription médicale est aisée. Donc, il n'y a pas de problème pour avoir accès aux soins. Surtout ceux qui sont asymptomatiques ou bien ils ont des symptômes mineurs, il n'est pas exigé qu'ils soient isolés dans un hôpital. On réserve l'hôpital pour les cas qui présentent des détresses respiratoires et ça permet de désengorger aussi les hôpitaux. Sinon, le traitement est accessible et gratuit dans la plupart de nos pays.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pierre Kangoudia nous écrit depuis Miabi, certainement au Burkina, et il veut savoir si une personne déclarée guérie du COVID-19 peut être infectée à nouveau.
Effectivement, cela, c'est des informations qui ont été rapportées par les chercheurs, aussi bien en Belgique, même par des cas qui ont été observés aussi à Nevada et aux USA. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Effectivement, même si, comment on peut l'expliquer? Il est certain qu'une personne qui a attrapé COVID finit par développer une certaine immunité. Mais cette immunité, selon la physiologie même de la même personne, on ne sait pas quelle est la force de l'immunité qu'il a acquise. Okay? Et est-ce que c'est une faible immunité? Est-ce que c'est une immunité majeure qui lui permet de répondre efficacement lorsqu'il y a une autre infection? Ce n'est pas toujours le cas. Selon que l'immunité qu'il a acquise est faible, il peut ne pas être en mesure de riposter par rapport à une nouvelle contamination. Si bien que des cas ont été rapportés que des personnes qui ont été déjà déclarées guéries au COVID sont apparues avec une recontamination. Et les études ont montré que c'est une autre variante de COVID qui les a affectés et non les mêmes variantes qui avaient causé la première maladie chez eux. Cela veut dire que même quand on a été guéri, il faut demeurer prudent. On ne peut pas à présent se prononcer sur la fréquence de personnes qui sont en mesure d'être réinfectées. On ne peut pas, la science n'a pas encore fait des études pour montrer quelle est la fréquence, le taux de recontamination possible. Et l'autre aspect est quelle est la durée. Quelle est la durée de l'immunité que l'on acquiert? Donc, toutes ces questions sont toujours l'objet d'investigations par la science. Et ça pose aussi la problématique des vaccins. Parce que ces vaccins, quelle sera leur durée? Et tout ça, c'est des objets d'investigation. Et ce qui est certain, une personne qui a attrapé le COVID et qui en est guérie peut être recontaminée par d'autres souches et d'autres variantes de COVID. Cela amène ces personnes à continuer à être observants, à observer les mesures comme tout le monde pour ne pas être recontaminées à nouveau. Et la question qu'on se pose aussi sur ce point et que nous n'allons pas perdre de vue, est-ce que au deuxième épisode, est-ce que c'est une forme grave ou une forme moins grave? Des cas de forme grave ont été rapportés et des cas de forme moins grave ont été rapportés à cette deuxième phase de développement de COVID. Donc cela nous amène à être prudents. Même quand on est guéri, il ne faut pas jouer trop aux champions. Il faut toujours observer les mesures de prévention qui sont les ABC de lutte contre le COVID, à savoir le port de masque, la distanciation sociale et puis le lavage des mains et la désinfection des mains à l'eau, au savon ou bien avec une solution hydroalcoolique.
Alphonse Mbouaki de la RDC revient pour savoir à quel moment on peut vraiment déclarer complètement guéri un malade de coronavirus après les soins.
D'après le protocole approuvé par l'OMS et de la plupart de nos pays, et bien sûr, nos pays se sont montrés un peu plus exigeants sur les critères de guérison. Et nos pays en Afrique subsaharienne se sont montrés très exigeants sur les critères de guérison. C'est selon le protocole du Burkina Faso, dont que je maîtrise le mieux, c'est qu'une personne qui a été mise sous traitement pendant, selon le protocole, comme je l'ai dit, pendant les 10 jours, on lui fait un test de contrôle au PCR. Et il faut que le test de PCR soit négatif. Deux tests de PCR négatifs à 48 heures d'intervalle. C'est-à-dire, on fait une première test, le test est négatif, 48 heures après, on fait un deuxième test et le test est encore négatif. Ça fait deux tests PCR négatifs à 48 heures d'intervalle et la personne est déclarée guérie. Ce qui se passe, c'est que parfois, le premier test peut être négatif, celui qui suit devient positif et alternatif, l'autre devient négatif et ça prolonge parfois le séjour du malade au-delà des 10 jours comme prévu. Mais ce qui est certain, la personne, les symptômes habituellement disparaissent. Hein, déjà, après une semaine de traitement, 5 à 1 semaine, les symptômes disparaissent pour la plupart, ok. Et puis, le reste, on s'en remet aux tests PCR. Donc, il y a parfois les tests PCR en Afrique, et c'est pas seulement en Afrique d'ailleurs, qui posent parfois problème, parce que chaque fois que c'est positif, alors que la personne n'est pas toujours contaminante, et les gens, par prudence, attendre nécessairement de réunir les deux tests négatifs à 48 heures d'intervalle. Donc voilà les dispositions qui sont prises dans nos pays en Afrique subsaharienne et je pense que ça peut aller.
Et donc pendant le traitement, la personne ne présente plus de danger. Donc après les deux tests qui déclarent la personne négative, elle peut facilement ou bien aussitôt rejoindre la famille ou bien elle doit encore se mettre en quarantaine.
Ah non, après, comme je vous l'ai dit, le critère de sortie, c'est un critère biologique de PCR est négatif à 48 heures d'intervalle. Cela montre que la personne n'est même plus contaminante, il n'est plus une menace pour son environnement social. Le reste maintenant, c'est peut-être l'environnement social qui peut être encore une source de recontamination pour lui. Donc, mais lui n'a plus à être une source de risque pour personne parce que les tests PCR sont revenus négatifs. Il n'est plus une source de risque. Maintenant, quand il retourne dans un environnement social où les gens ne se montrent pas précautionneux, il peut être recontaminé. Donc, ce qui est recommandé, dès qu'il sort, il faut qu'il continue à prendre des précautions pour ne pas se faire recontaminer. Mais lui-même, en fait, n'est plus une source de menace pour son environnement, à moins que pendant son parcours, il soit recontaminé à nouveau.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Il y a un auditeur ici qui dit qu'il a peur des personnes asymptomatiques. Comment est-ce que les gens peuvent se protéger contre ce genre de personnes qui ont le virus mais ne présentent aucun symptôme?
Vous savez, en parlant des mesures de prévention, il y a ce que nous appelons les mesures collectives de prévention et les mesures individuelles de prévention. Donc, si nous observons les mesures collectives de prévention, qui sont résumées dans les trois éléments dont j'ai parlé, c'est la seule façon de se protéger d'un porteur asymptomatique. Parce que le porteur asymptomatique ne peut être déclaré porteur de COVID qu'après un test biologique, précisément le PCR, okay, en Afrique subsaharienne. Je sais qu'ailleurs, il y a d'autres tests, mais le test le plus accessible, c'est les PCR en Afrique subsaharienne. Donc voilà ce qu'il en est. Donc, en observant les mesures collectives, qui sont les mesures recommandées à la communauté, c'est comme ça qu'on se préserve des personnes asymptomatiques. Donc, c'est ce que je recommande toujours, même une personne guérie, puisqu'il ne sait pas si son voisin est un porteur sain, alors qu'il peut contaminer les gens asymptomatiques, alors il essaie d'observer les mesures de protection individuelle et les mesures de protection collective, et là, il est à l'abri de tout danger. Les mesures de prévention ne sont pas seulement pour les malades, c'est pour tout le monde.
C'était notre entretien avec le docteur Camille Gounimenou sur sa maladie du COVID-19. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur les variants du coronavirus identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Et un expert apporte des éclaircies sur ces nouvelles formes de COVID-19 qui se propagent dans le monde. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'émergence en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud de deux nouvelles formes du SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, suscite l'inquiétude. Le variant B117 a été détecté en novembre au Royaume-Uni et par la suite dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Corée du Sud et la France. Le variant 501V2, détecté en Afrique du Sud vers la fin de l'année dernière, a été repéré ensuite dans d'autres pays. Les virus mutent constamment, selon les experts, ce qui peut entraîner des variants. Selon les scientifiques, les variants du COVID-19 semblent être plus contagieux et plus difficiles à contrôler. Mais les vaccins COVID seraient toujours efficaces. Reportage Steve Baragona de VOA avec le récit de Yacouba Ouedraogo.
Les rues de Londres sont redevenues calmes. Le premier ministre britannique Boris Johnson a mis le pays sous confinement après l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus.
Il est clair que nous devons faire plus ensemble pour maîtriser cette nouvelle variante.
En Afrique du Sud, une autre souche inquiète les médecins. L'épidémiologiste de l'Université du KwaZulu-Natal, Tolio de Oliveira, explique.
Il a dominé presque toutes les infections que nous avons dans la zone côtière, du Cap Oriental jusqu'à Cape Town.
La souche du Royaume-Uni s'est répandue dans au moins 40 autres pays. Le variant sud-africain est apparu dans 9 autres. Les deux semblent être à l'origine de la flambée d'infections dans leur pays. Mais les scientifiques ne peuvent pas encore le dire avec certitude, selon l'immunologiste Andrew Pecost de l'université John Hopkins.
Cela doit vraiment être étudié dans d'autres pays pour voir est-ce quelque chose qui s'est produit en Angleterre pour plusieurs autres raisons ou est-ce quelque chose qui est vraiment spécifiquement associé à ce virus. Et si c'est le cas, alors nous devrions voir cela dans d'autres pays.
Les variants ne semblent pas rendre les gens plus malades, mais l'augmentation des cas signifie probablement plus d'hospitalisations et plus de décès.
Si vous avez simplement un virus qui peut infecter plus de personnes, alors le nombre total de personnes augmente et tous ces autres paramètres également.
Les nouveaux virus mutés sont apparus au moment même où les vaccins pour lutter contre la pandémie commencent à arriver. Mais les vaccins devraient toujours fonctionner, déclare le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique Patrick Vallance.
Lorsqu'un vaccin est administré, vous ne fabriquez pas qu'un seul anticorps contre le virus. Vous fabriquez beaucoup d'anticorps contre beaucoup de virus différents. Et il est donc peu probable que tout cela échappe à une mutation.
Des tests sont en cours pour s'en assurer. Les virus mutent en permanence et les vaccins devront éventuellement être mis à jour.
Certains de ces vaccins, en particulier ces vaccins à ARNm, ont le potentiel d'être mis à jour très rapidement pour tout ce qui circule.
Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont dans ce type. Si les nouvelles souches prennent le relais, une adaptation rapide sera possible face à un virus en constante évolution.
Pour en savoir davantage sur les variants de COVID-19, je me suis entretenue avec le professeur Salim Abdulkarim, expert épidémiologiste des maladies infectieuses cliniques et président du comité consultatif du COVID-19 en Afrique du Sud.
Lorsque nous avons initialement décrit le nouveau variant du COVID, nous étions préoccupés par quatre choses. Premièrement, est-ce plus dangereux? La réponse est oui. Les meilleures preuves dont nous disposons à ce jour suggèrent qu'il se propage environ 50% plus rapidement. Deuxièmement, cause-t-il une maladie plus grave? La réponse à cette étape, qui est préliminaire, suggère que ce n'est pas plus grave. Nos taux d'admission ne sont pas plus élevés dans la deuxième vague. Nos taux de létalité ne sont pas plus élevés dans la deuxième vague. Et les preuves dont dispose également le Royaume-Uni avec ce variant ne montrent pas non plus sa gravité. Il ne semble donc pas que le nouveau variant soit plus sévère. Est-ce qu'il échappe à l'immunité naturelle? si vous avez naturellement contacté le coronavirus auparavant, échappe-t-il à nos anticorps et à votre immunité? La réponse à cela est oui. Il semble que les trois mutations qui se produisent sur la partie la plus importante du virus, appelée le domaine de liaison au récepteur, ainsi que quelques quatre mutations à l'extrémité terminale, améliorent la capacité de ce variant à échapper à l'immunité cellulaire de convalescence. Donc, quand vous prenez du sang de ces personnes qui avaient ce virus auparavant et que vous le mettez en relation avec le virus pour voir s'il tue le virus, la réponse est non. Ce n'est pas le cas. Il semble que le virus est capable d'échapper à ses anticorps. Le problème est donc de voir des réinfections. La réponse à cette question n'est pas facilement disponible car la protection contre la souche des variants du virus, le nouveau variant, ne dépend pas seulement des anticorps. Elle dépend également de l'immunité des cellules T. Ces études sont donc toujours en cours et nous espérons pouvoir avoir une meilleure impression globale de réinfection dans les prochains mois. Et enfin, est-ce que le nouveau variant échappe à l'immunité induite par le vaccin? Nous ne connaissons pas la réponse à cela. Il est trop tôt pour que nous puissions obtenir cette réponse. Nous pouvons nous attendre à ce que cette réponse devienne disponible dans les 2 à 3 prochaines semaines environ. J'ai bon espoir. Je pense que lorsque nous examinons les perspectives d'un vaccin, il ne fait aucun doute que le vaccin est une composante majeure de nos efforts pour contrôler cette maladie. Nous devons comprendre que ce virus, comme tous les autres virus, va muter. Tous le font. Et au fur et à mesure qu'il mute, il trouvera des moyens par lesquels la pression immunitaire de la vaccination le poussera et le changera de manière particulière.
Partons maintenant au Nigeria où les chercheurs effectuent un séquençage génétique afin de comprendre le nouveau variant de COVID-19 qui est apparu dans le pays. Récit Gabi Dorsil.
Les scientifiques nigérians ont passé les fêtes de fin d'année dans des laboratoires effectuant un séquençage génétique pour en savoir plus sur le variant COVID-19 apparu dans le pays. Le Nigeria a confirmé 86 576 cas de COVID-19, dont 1278 décès, selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le virologue Sunday Omidabu explique que les informations qu'il recueille sur ce variant aideront à lutter contre la propagation de la maladie au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique avec 196 millions d'habitants.
Les variants découverts au Royaume-Uni et en Afrique du Sud sont très différents de ceux découverts actuellement au Nigeria. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les séquences car nous ne séquençons pas autant que nous sommes censés le faire.
Le Nigeria enregistre plus d'infections au COVID-19, mais il n'est pas encore certain que cela provienne du variant. Selon le professeur Omilambu, une personne peut propager la maladie à 4 ou 5 membres de sa famille, ce qui est un taux de transmission plus élevé que celui enregistré précédemment.
Nous voyons que dans certaines familles, nous pouvons parler de 3 à 5 personnes contractant la maladie d'un seul malade, où toute la famille contracte le virus en même temps. Dans un groupe de 6, 5 sont infectés. Et cela nous montre que quelque chose se passe. Il y a une poussée. Alors nous enregistrons cela, mais nous n'avons encore séquencé aucun de ces isolats.
Alors que des travaux de laboratoire sont en cours, pour en savoir plus sur le variant, les Nigérians doivent rester vigilants pour éviter de propager le virus. Les nouveaux variants sont apparus alors que les infections au COVID-19 sont en augmentation dans 47 pays africains, atteignant presque le sommet que le continent a connu en juillet. Selon l'OMS, au mois de décembre, 10 pays, y compris le Nigeria, ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas, représentant 90% de toutes les infections en Afrique.
Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on porte un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est aussi ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons interviewé le docteur Camille Gounimenou, spécialiste de santé publique et médecin engagé dans l'appui international dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Il nous a livré un riche témoignage en tant que malade guéri du COVID-19. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.